Ce lundi, les amis du monde diplomatique dans le Nord recevaient Gérard Filoche. Gérard Filoche est inspecteur du travail et il est également mis en examen d'ailleurs en ce moment pour avoir fait son travail. Gérard Filoche donc était passé. C'est également un vieux militant, hélas, au PS, qui revient sur le droit du travail. Il revient sur le droit du travail et comment il a fallu, comment le droit du travail s'est construit en 160 ans et comment il n'a fallu que 5 ans, en fait, pour le détruire. Diffusion donc de cette conférence débat qui a eu lieu ce lundi en deux volets. Ce soir, c'est le premier volet, c'est le droit du travail. Et c'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus.
Ça serait une radio où il y aurait de la musique, du jazz, de la chanson, et puis des trucs qui bougent, quoi, du rock, du rap, et aussi du reggae, un peu de classique, mais je voudrais aussi des informations.
On est bien là, dans une logique impérialiste.
Des opinions.
Moi, je vais te donner mon point de vue.
Des interviews.
Moi, je sais pas, j'habite dans quoi.
La politique, quoi.
Nous qui sommes le contre-pouvoir.
Ça déconne, hein.
Elle était violente, cette crise.
Tout ça, surtout, son publicité. Mais bon, des radios comme ça, ça existe pas. Y'en a pas.
Mais t'es con, quoi.
Ce foutu mélange, c'est Radio Campus, qu'on écoute sur 106,6.
T'as marché sur le fil du micro.
Le droit du travail est le plus quotidien. C'est le plus mal enseigné, le plus méconnu, le plus dénigré, le plus fraudé. On dit qu'il est complexe. Enfin, ceux qui disent ça, c'est souvent... J'ai entendu des gens qui défendent le traité constitutionnel européen. Ça ne m'a jamais tellement convaincu que de dire que le code du travail était complexe, il y a 10 articles majeurs sur la naissance du contrat, la gestion du contrat, la fin du contrat, les institutions représentatives du personnel. Les conseillers prud'hommes, il y en a sans doute dans la salle, savent que autour de ces 10 articles, alors, il y en a beaucoup d'autres. Pourquoi ? Parce que le code du travail est le fruit d'une histoire, de 160 ans d'histoire, de lutte sociale. C'est l'expression des rapports de force sociaux. Il est fait, j'ai l'habitude de le dire, de sueur et de sang, de lutte et de larmes. Tout commence 1840, le rapport du docteur Villermé. Il fait un rapport sur la santé physique, l'état des femmes, des enfants qui travaillent dans les fabriques, qui travaillent 14 heures par jour et qui y meurent. Alors il dit, il faut travailler moins. Et l'histoire du code du travail, c'est l'histoire de la réduction du temps de travail, si vous voulez que je la résume. C'est 160 ans de réduction du temps de travail. Ça se passe pas du jour au lendemain. Hein. La journée, pour passer de la journée de 14 heures à la journée de 10 heures, il faut presque 80 ans. Presque 80 ans. 1920, on arrive à peu près à cette journée de 10 heures. Puis après, vous savez, 1936, c'est les 40 heures. 1982, c'est les 39 heures. 2002, c'est les 35 heures. Dans les 70 dernières années, la France prouve au monde entier qu'on peut faire trois choses à la fois. Réduire la durée du travail, augmenter la productivité et augmenter les salaires. Trois choses à la fois. Depuis 70 ans, on prouve qu'on peut travailler moins et gagner plus. Il faut quand même être barbare et moyenâgeux depuis 6 ans pour essayer de faire tourner la roue à l'envers. Hein ? Si Sarkozy, quand il est arrivé au pouvoir, il a réuni ses ambassadeurs, il a dit « Allez dire partout dans le monde que la France n'est plus la France des 35 heures. » Mais les gens aiment bien dans le monde la France des 35 heures. Ils l'aiment tellement qu'ils pourraient l'avoir aussi, les 35 heures. En Corée du Sud, dans les 25 dernières années, on a dû passer d'une durée légale du travail de 55 heures hebdomadaires à 40 heures hebdomadaires. Il en a fallu des luttes pour ça. Je dis bien des luttes, hein, parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « C'est les bienfaits de la mondialisation. » Non, c'était les bienfaits de la lutte contre la mondialisation libérale. Et il en a fallu des grèves, des mouvements et des morts pour arriver de 55 heures à 40 heures. Et le monde entier voudrait, c'est une aspiration légitime, humaine, travailler plus et travailler moins et gagner plus, c'est une aspiration profonde. Ah, du temps pour le loisir, pour vivre. Nos aînés, au début du siècle dernier, se battaient, si vous vous souvenez, il y avait une très jolie photo sur, pour les 3-8. 8 heures de travail, 8 heures de loisir, 8 heures de sommeil, en une seule journée. C'est une revendication géniale qu'on n'a toujours pas. Elle disait qu'il fallait en gros que les besoins humains l'emportent sur les besoins de la productivité. Ce qu'on nous explique aujourd'hui, c'est qu'il faut que les besoins de la productivité l'emportent sur les besoins humains. C'est-à-dire le contraire de ce pourquoi nos aînés se battaient au début du XXe siècle. L'inspection du travail a été créée en 1892, le ministère du Travail en 1906. Ça a permis ainsi à l'inspection d'échapper à la tutelle du commerce et de l'industrie. C'était en même temps qu'on a mis le repos pour le dimanche, à l'unanimité, cette année-là, de l'Assemblée nationale. Et puis vous avez un déroulé pendant tout le siècle. Au début du 20e, il y a 3 millions de salariés. Il doit y avoir en 1910 trois lois fondamentales, 80 décrets et 110 inspecteurs du travail. Et à la fin du 20e siècle, vous avez à peu près 1200 lois, 3000 décrets, 16 millions de salariés et 427 inspecteurs du travail. En proportion, leur nombre n'avait pas suivi. Mais il y avait des droits syndicaux, des institutions représentatives du personnel, IRP, comité entreprise, délégué du personnel, CHSCT, délégués syndicaux, avec un développement des tribunaux prud'hommes et des possibilités de faire valoir la justice, le droit au travail, l'état de droit dans l'entreprise. 160 ans de... En gros, c'est pas des progrès continus, hein. Il y a eu des reculs. Encore que Pétain n'avait pas touché aux 40 heures. Dans sa loi du 28 août 1942, il s'était contenté d'allonger la durée maximale du travail et de permettre que les heures supplémentaires atteignent le nombre de 52 heures, mais il n'avait pas touché aux 40 heures. Il avait déduit, à ça quand même, les temps de pause, les temps d'habillage et les temps de casse-croûte du temps de travail effectif, ce qui ne se faisait pas avant la Deuxième Guerre mondiale. Avant, on croyait qu'évidemment, quand on mettait son bleu de travail, quand on s'arrêtait pour passer la croûte, c'était dans le temps de travail. Personne n'avait l'idée qu'on travaillait 8 heures complètes et qu'il fallait défalquer ce temps-là. Pétain l'a fait 28 août 1942. En fait, il n'a pas osé s'attaquer aux 40 heures. Enfin, ceux d'aujourd'hui n'osent pas non plus s'attaquer frontalement aux 35 heures. Ils contournent. Ils font comme lui. Ils jouent sur les durées, le calcul du temps. Mais au fond, c'est 160 ans de progrès presque, je dirais, de développement de l'état de droit dans l'entreprise, jusqu'il y a 5-6 ans. 160 ans contre les 5-6 dernières années. Ça va mal hein, en France quand le MEDEF prend la place du CNPF. Bah, c'est pas mon propos de défendre le vieux CNPF, hein. Eux, ils s'étaient quand même accoutumés à ce qui était sorti de la Seconde Guerre mondiale, du Conseil national de la Résistance, des comités d'entreprise, pour être court. Et dans ce cadre-là, ils travaillaient pour réduire les droits des salariés. Mais c'était dans ce cadre-là. Il y avait un cadre collectif, il y avait des conventions collectives et un droit du travail collectif. Et puis le MEDEF, c'est une rupture. Il ne travaille plus dans le cadre de ce qui s'est construit dans les rapports de force sociaux dans notre pays, au sortir de la guerre. Il travaille sur un autre horizon, un droit anglo-saxon. Ils veulent casser le droit et la société du travail telle qu'elle est en France depuis 60 ans. D'ailleurs, c'est ce que Sarkozy avait expliqué à la télévision il y a un an et demi. Je veux remettre en cause le système social français tel qu'il est depuis 60 ans. Et le MEDEF, c'était pour passer... C'est doctrinal, ça, pour passer d'un droit collectif à un droit individuel. Revenir aux lois de bras du XIXe siècle. Casser ce qu'il peut y avoir de conventions, d'accords, de protection collective. Pour revenir à des contrats négociés de gré à gré, dans un rapport de force, évidemment, le plus défavorable possible pour chaque salarié pris individuellement. Et cette rupture, elle se fait... C'est pas dur, on peut la dater, hein, c'est le 10 octobre 1997. Lionel Jospin convoque les partenaires sociaux, comme on dit, à Matignon, le patronat, les syndicats sont là, il annonce qu'il va faire les 35 heures sans perte de salaire. Jean Gandois, le patron du CNPF, sort sur le perron de Matignon, dit « Je démissionne, nous avons été bernés », il croyait que ça n'allait pas être fait, « Nous avons été bernés, Je démissionne parce qu'il faut maintenant, il le dit comme ça devant les caméras de télévision, des tueurs à la tête du MEDEF. Et les deux tueurs sont nommés, il s'agit du baron Ernest Antoine Seyer et de Denis Kessler, et qui disent, nous allons mener la guerre au gouvernement sur les 35 heures, nous le déstabiliserons, le gouvernement Jospin, sur la question des 35 heures, jamais nous n'accepterons cela. Mener la guerre aux 35 heures. Et ça fait 10 ans qu'il l'amène. Et le MEDEF représente ce changement où ils veulent casser l'ensemble. L'ensemble du droit du travail, tel que 160 ans d'histoire, peu ou prou l'ont bâti antérieurement. Alors, c'est la célèbre Madame Parisot, qui est ma préférée, je vais la citer beaucoup ce soir, qui dit « La liberté de penser s'arrête là où commence le code du travail. » Elle est filmée hein, quand elle dit ça. Vous pouvez le voir dans un film qui s'appelle « Il était une fois le salariat ». Il a été fait par Anne Cunevary. La boîte de production, c'est Iskra. Il est passé deux fois sur France 5. Elle est dans une voiture. Elle le dit tranquillement. La liberté de penser s'arrête là où commence le code du travail. Vous appliquez ça au code de la route, vous avez 10 000 morts le lendemain. C'est la négation du droit de la République d'intervenir par la loi dans l'entreprise. Elle va un peu plus loin, hein, parce qu'on en a dit beaucoup, cette femme. Elle dit « La vie, la santé, l'amour sont précaires. Pourquoi le travail ne le serait-il pas ?» Je vous invite, ça se présente comme un menuet, ça sonne bien à l'oreille. Je vous invite à méditer, parce que c'est l'apologie de la barbarie. L'apologie de la barbarie. Hein, depuis l'aube des temps, nos plus anciens ancêtres ont lutté contre la précarité. Contre la précarité du froid, de la faim, la souffrance, la soif. On a inventé l'agriculture pour lutter contre la précarité de la cueillette. On a inventé l'élevage pour lutter contre la précarité de la chasse. L'histoire de l'humanité est l'histoire de la lutte contre la précarité, y compris contre la précarité de nos amours. Vous avez cette femme qui arrive, là, début du XXIe siècle, en France, à Paris, elle vous dit 50 siècles d'erreur. Machine arrière. C'est la précarité qui doit gagner. Vous devez le reconnaître, l'accepter, et ça doit être la règle pour tout, y compris dans votre vie quotidienne de production. Il n'y a pas de droit. La précarité doit l'emporter. Ça colle avec la fameuse concurrence libre et non faussée. Concurrence libre et non faussée, c'est il y a un morceau de viande, il y a deux humains, il y en a un, il tue l'autre pour avoir le morceau de viande. La concurrence est libre et non faussée. Si vous avez un peu de civilisation, au lieu de se tuer, le plus gros prend le plus gros morceau. Il se partage. Si la civilisation progresse encore, on peut arriver à se partager le morceau moitié-moitié sans se tuer. Et si la civilisation progresse encore, on peut donner plus de viande à celui qui est plus faible s'il en a le plus besoin. Ça s'appelle la sécurité sociale. J'ai fait un raccourci. Mais que Madame Parisot, le raccourci, vous le faites en marche arrière toute. Vive Cro-Magnon. Retour à l'origine. Hein ? Libre, non faussé, précaire, et pas de code du travail, pas de loi de la République. Parisot était même fait, à un moment donné, dans l'été 2006, le siège de Villepin, alors Premier ministre, pour obtenir de lui, parce qu'il y avait un changement constitutionnel dans l'air, que l'article 34 de la Constitution de la Ve République soit modifié, parce que c'était l'article qui disait que c'était le Parlement qui légiférait en matière de droit du travail, de droit social et de protection sociale. Et elle voulait changer cet article pour que ce ne soit plus le Parlement. Elle disait que ça doit être le contrat. Uniquement le contrat. Bah oui, le contrat, ça permet le dictat du MEDEF. Parce que quand il ne signe pas, il n'y a pas de contrat. Et un Parlement peut donc ne plus lui imposer par-dessus le contrat la loi. Alors, tout de suite, un point de précision. Je ne méprise pas le contrat. Je suis pour autre. Quelle est la bonne formule pour avoir le concours d'inspecteur du travail ou de contrôleur? Je vous l'ai dit, hein. Autant de contrats que possible, autant de lois que nécessaire. Vous avez la bonne synthèse, vous avez une bonne note, et c'est vrai qu'il y a une synergie entre contrat et loi. Vous pouvez parfois, parce qu'il y a une grève, avancer plus vite que la loi, obtenir un accord qui aille beaucoup plus vite que la loi. Regardez en Guadeloupe, On peut parfois gagner 151 mesures en faisant une grève que le gouvernement ne veut pas au début ou qui n'est pas prévue par la loi. En tout cas, les sources sont ouvertes. Et puis par d'autres moments, bah, quand vous n'avez pas obtenu le rapport de force sociale, que le patronat n'a pas cédé, ça c'est toute l'histoire des luttes sociales, et c'est la loi qui permet d'avancer plus vite. Voilà, il y a une synergie entre loi et contrat. On ne peut pas totalement opposer les deux, mais Mme Parisot, elle en veut. Enfin, elle voulait que le contrat l'emporte sur la loi. Maintenant, c'était à l'époque qu'elle croyait que c'était la gauche qui allait revenir, mais maintenant que c'est la droite, elle ne dit rien quand il y a beaucoup de lois, cependant, faites par ses amis qui la servent. Hein. Disons-le franchement, et je citerai un exemple tout à l'heure énorme. Bon, depuis 6 ans, par où je commence? 4 mai 2004, une loi de François Fillon, il est ministre du Travail. C'est une des lois les plus scélérates, quoique peu connues. C'est celle qui renverse la hiérarchie des sources de droit et qui permet qu'on négocie dans l'entreprise des accords qui dérogent aux accords de branche, lesquels dérogent aux accords d'entreprise, lesquels dérogent à la loi. C'est-à-dire qu'on peut, par le bas, saper l'ordre public social. Et on met en l'air, dans cette loi, ce qu'on appelle le principe de faveur. C'est-à-dire que quand il y a plusieurs textes, une convention et une loi, c'est ce qui est le plus favorable aux salariés qui l'emporte. Là, il permet, dans la loi du 4 mai 2004, qu'un accord soit défavorable et qu'ils puissent être signés au niveau de l'entreprise en enlevant du droit à ceux qui le signent et qui vont être concernés par ça, par rapport au droit en général et à la hiérarchie des sources de droit. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un renversement profond de toute conception de l'ordre public social. On le sape par le bas. Alors, ça se diffuse lentement, ces choses-là, mais ça se diffuse. Sous la pression, tel employeur ou telle entreprise ou telle branche va pouvoir faire obtenir des reculs qui vont saper l'ensemble de l'édifice. Et il permet à l'époque que ça soit avec des accords majoritaires, selon le nombre de syndicats qui les signent. Alors, ça veut dire que c'est des accords majoritaires par ordre et pas par tête. Vous comprenez, c'est comme avant la Révolution française, quoi. Parce qu'on a fait la Révolution dans notre pays pour qu'il y ait des votes par tête et pas par ordre. Rappelez-vous, le tiers-État était majoritaire, mais il n'avait qu'une voix, tandis que la noblesse et le clergé avaient deux voix. On a fait la révolution pour que le tiers-État, parce qu'il était plus nombreux, puisse être majoritaire. Et bien Fillon, le 4 mai 2004, il a fait une loi pour que si 3 syndicats le signent contre 2 autres, ça soit une majorité, même si les 3 syndicats n'ont que 10 ou 20% des voix. C'est le cas dans la métallurgie. CFTC, CGC et Force ouvrière signent en général les accords dans la métallurgie. Ils ont que 20% des voix. CGT et CFDT, en général, ne signent pas les accords dans la métallurgie. Ils ont 80% des voix. Mais ils sont minoritaires parce qu'ils sont que 2 contre 3. Et l'accord majoritaire par ordre. Et ceci ajouté au principe de SAP, où on peut signer des accords dérogatoires négatifs, est évidemment extrêmement corrosif pour le droit social. Loi du 4 mai 2004, notez, c'est une des premières choses à abroger. Ensuite, ils font la recodification. Alors la recodification, ça veut tout dire, à rien dire. Dans ce pays, il y a une commission supérieure de la recodification. Il y aurait une chose pareille, c'est une commission qui a la sagesse de rendre lisibles nos textes, les rendre accessibles, d'éviter les contradictions de vocabulaire. Et elle est censée faire ça à droit constant, sans modifier le droit. C'est une difficulté, parce que le droit, c'est de la sémantique, chaque virgule a sa place, et réécrire ou gommer ou nettoyer des textes à droit constant, sans trahir l'esprit du législateur, quand même une drôle de tâche. Drôle de tâche. Alors là, une ordonnance du décembre 2004, ils y ont pensé, a visé à recodifier le Code du Travail. Le 16 février 2005, Gérard Larcher, alors ministre du Travail, met en place la commission. Il nomme Jean-Denis Combrexelle. Tout seigneur, tout honneur, c'est le directeur général du Travail. Nous avons quelques démêlés ensemble depuis quelque temps. Cet homme, comment vous le présentez? Liaison Sociale a dit que pendant toute la période de la recodification, il mangeait une fois par mois avec Denis Gauthier-Sauvagnac. C'est l'homme de la caisse noire de l'Union des industries et métiers métallurgiques. Celui qui avait 600 millions d'euros collectés en abus de biens sociaux sur 0,04% des entreprises de la métallurgie, qu'il plaçait et qu'il diffusait ensuite en liquide à raison de 2 millions d'euros par an et de mallettes qui pesaient de 26 à 32 kilos qu'il faisait aller chercher par sa secrétaire ou son chauffeur avant d'arroser les uns les autres. Et il disait qu'il aidait les patrons qui étaient confrontés à des grèves à y résister. Pour un gars qui défend la concurrence libre et non faussée, vous voyez le boulot qu'il faisait avec ses 2 millions d'euros annuels. Parce que le TRACFIN, l'organisme de lutte contre le blanchiment de l'argent, a trouvé ses 2 millions d'euros sur les 8 dernières années, de 2000 à 2008 quand même. Hein. Ça fait beaucoup, quoi. Lui-même se payait 240 000 euros pour faire ce boulot. Il payait, comme il dit, ses collaborateurs en liquide. Il était président de l'UNEDIC, hein. Dans, on raconte des histoires dans les maternelles, c'est le comble de Toto. Le comble de Toto, c'est quand même quand vous êtes président de l'UNEDIC de ne pas payer les cotisations sociales qui reviennent à l'UNEDIC. C'est quand même le comble. Mais il le faisait, Gauthier Sauvagnac. C'est là-dessus qu'il y a eu tant d'histoires avec Madame Parisot, vous savez, vous avez suivi ça aussi. Elle a dit beaucoup savaient inconsciemment. S'il y a des étudiants dans la salle, je cherche à ce que quelqu'un fasse un mémoire sur le savoir inconscient collectif. C'est un sujet d'étude qui devrait être passionnant, quand même. Hein. Elle a dit aussi, c'était un secret de famille honteux. Bah, elle était dans la famille. Hein. Après, elle a dit, je me sens sali. C'était il y a un an et demi. Elle n'a rien fait pour se laver depuis. Les dirigeants de l'UMM ont dit, mais tu savais. Elle les a accusés en diffamation. On attend le résultat du procès. C'était le 19 janvier dernier. Pour avoir dit, tu savais. Mais évidemment qu'elle savait. Tout le monde sait qu'elle savait. Inconsciemment, bien sûr. Bon, pourquoi j'ai fait cette parenthèse? Ah, pour parler de Jean-Denis Combrexelle. Parce que Jean-Denis Combrexelle, qui a fait la recodification, il a nommé Jacques Barthélémy. Alors Jacques Barthélémy, c'est le plus grand cabinet d'avocats juristes en droit du travail de la place de Paris au service intégral du MEDEF. 400 juristes. Ils savent tout. Quand il y a une jurisprudence qui a un peu foiré quelque part, ils essaient de la rattraper dans un autre tribunal en France. Ils savent le prénom de chaque juge. Quand est-ce qu'il a toussé de travers? Quand est-ce qu'il a rendu un arrêt trop vite? Là où il y a une phrase qui a manqué. Toujours pour pouvoir faire la peau du salarié qui est en face. C'est leur job. Et Jacques Barthélémy a été au cœur de la recodification à droit constant du Code du travail dans ce pays. Le troisième qu'a nommé Jean-Denis Combrexelle, c'est un universitaire bordelais qui s'appelle Christophe Radet. Je fais de la pub à lui aussi chaque soir. Lui, il a écrit la préface du code recodifié. La première version, dans le Dalloz, dans l'été 2007, il a écrit dedans « Il faudra des mois, voire des années, pour que le nouveau code révèle tous ses secrets ». Il était au courant, c'est lui qui avait fait le boulot. Il avait comme mandat par l'ordonnance de 2004 de rendre le texte plus lisible et plus accessible aux usagers. Il termine sa préface en disant « Ce sera un effort colossal pour les usagers ». Ils ont en effet, là où il y avait 273 subdivisions dans le Code du travail, ils en ont fait au total 1850. Là où il y avait 1150 lois, ils en ont fait 3850. Là où il y avait 9 livres, ils ont fait 8 livres. Et là où il y avait 500 lois, ils ont balancé 500 lois pour les remplacer par des décrets. Ils ont recoté à 4 chiffres tout ce qui était à 3 chiffres, faisant s'écrouler tout ce qu'il pouvait y avoir comme système de jurisprudence basé sur les écritures antérieures. Ils ont fait ça en technocrate. Ils avaient les 5 syndicats dits représentatifs selon l'arrêté de 1966, CGT, CFDT, CFTC, FO et CGC, associés pour ce travail, mais ils les ont largués en cours de route. Il les convoquait une fois par mois, il leur donnait haut-de-sac de papier, ils planchaient, ils leur faisaient des remarques. À la réunion suivante, ils avaient déjà passé le point, ils faisaient autre chose, ils leur présentaient un autre texte, ils n'avaient pas tenu compte de leurs remarques. Et pendant un an, ils ont donc réécrit cette poignée de technocrates. 160 ans d'histoire. Oh, ça ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Ils ont eu un peu de mal, mais ils étaient stimulés alors. Gérard Larcher, en mars 2005, dans une convention sociale de l'UMP, En gros, il leur donne l'orientation. Il dit, faut arrêter, je cite, hein, il faut arrêter à ce que les oulémas de la Cour de cassation interprètent de façon salafiste le Code du travail. Je ne l'invente pas. Hein. Il a eu sa récompense, il est président du Sénat. Mais il fait ça à l'époque, pendant que toute la réécriture se fait, sans qu'il y ait un seul débat en France. Sans qu'il y ait une information de quiconque. Alors Villepin, à l'époque, lui, il chevauche. Alors il fait le fameux contrat nouvelle embauche. Il a des ennuis, hein, ça foirera. Il fait le contrat première embauche. Alors là, ça foire encore plus. Tout le monde s'en souvient quand même, c'était il y a seulement 3 ans. Il a eu droit à 3,5 millions de manifestants. Il y a une montée en 2 mois d'un mouvement quand même assez extraordinaire. Hein, avec une unité de toute la jeunesse, de toutes ses organisations, de tous les syndicats, de tous les partis de gauche. Enfin, 3,5 millions de manifestants le 4 avril 2006 quand même. Hein, c'était... Il faut se souvenir des bons moments. Surtout quand on souhaite qu'ils reviennent. Et vous vous rappelez d'ailleurs en plus, Chirac avait à l'époque promulgué la loi en demandant qu'elle ne s'applique pas. Moi, je sais, j'étais à Ussel ce soir-là, en Corrèze. C'est gravé pour moi parce que je cherchais partout avant la réunion. C'était un forum social limousin. Il y avait 1100 personnes. Il y avait plus de fromage bio que de politique, mais c'était très sympa. Et je cherchais un poste de télé, de radio pour écouter le discours de Chirac avant de parler moi-même. Et c'était mon portable qui avait sonné. C'était un ami à moi, grec, un journaliste qui m'appelait d'Athènes. Et puis qui me dit, mais Gérard, qu'est-ce qu'il fait, Chirac? Il promulgue une loi dont il demande qu'elle ne s'applique pas. Alors je lui dis, écoute, j'ai du mal à comprendre. Mais il me dit, mais comment j'explique ça aux Grecs? Écoute, pour les Grecs, tu te débrouilles. Mais il me dit, on a tous les yeux tournés vers vous ici. Bah, j'ai dit, oui, bien. Quand on avait gagné contre le CPE, il y a une chose qu'on n'a pas su qu'on avait gagné. Parfois, on gagne sur un point, mais derrière, ça dégage du terrain. Eh bien, à ce moment-là, on avait gagné contre la recodification. Villepin avait l'intention de promulguer l'ordonnance, recodifiant le Code du travail, en mai et juin 2006. Et après avoir perdu sur le CPE, il n'a plus osé. Et le délai était achevé, délai fixé par l'ordonnance de décembre 2004, était achevé le 30 septembre 2006. Il ne pouvait plus. Et je vous ai dit, il ne cède jamais. Ils ont, dans une loi qui s'appelle sur l'intéressement et la participation, elle-même publiée au journal officiel le 30 décembre 2006, la veille du réveillon. Vous n'êtes pas occupé de cette loi, c'est sûr. Ils ont dedans glissé un article qu'on appelle un cavalier parlementaire. C'est un truc qui parle d'autre chose que ce dont parle la loi dans lequel on met l'article. C'était l'article 57, qui a prolongé le délai épuisé depuis septembre 2006, en le renouvelant du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2007. Et Larcher, au Sénat, le 25 janvier 2007, a dit on va le faire avant la présidentielle. La présidentielle était en mai 2007, vous vous souvenez? Les sénateurs ont dit bon, c'est pas chiche, vous allez. Oh non. Larcher a dit si, si. Il l'a redit à la Commission nationale de la négociation collective, où il y a les 5 syndicats représentatifs. C'était le 6 février 2007. Les 5 syndicats se sont dressés vent debout en disant « Nous n'acceptons pas, c'est un coup de force, on ne peut pas réécrire le Code du travail de cette façon ». Ils ont fait une lettre commune, publiée le 14 février, adressée au gouvernement Villepin et au président de la République de l'époque, Chirac. Et Chirac, en Conseil des ministres, le 7 mars 2007, a promulgué l'ordonnance, publiée au journal officiel, le 12 mars 2007, 994 pages, format A4, au journal officiel. Et il l'a promulguée en disant, elle ne va pas s'appliquer tout de suite. Il avait trouvé le pli. Il dit, ça s'appliquera en 2008. Et il n'y a pas eu un débat dans la campagne présidentielle. Pas un candidat, une candidate, qui a abordé cela en disant le Code du travail, là, il vient d'être écrit différemment, par ordonnance, en dos du Parlement, parce que ce n'est pas la procédure la plus démocratique. Hein. Après, les députés et sénateurs, ils n'ont plus qu'à ratifier.
pas un débat, pas une télé, pas une radio. On était là, nous, les inspecteurs du travail, parce que c'est notre boulot. En disant, bah, on essayait d'obtenir des miettes de ce qui se disait, de ce qui se faisait dans le travail de recodification, et ce qu'on en apprenait nous faisait dresser les cheveux sur la tête. On a fait des notes aux divers candidats. On a essayé d'alerter, on a fait essayé de passer les articles. Impossible. Silence, chape de plomb total. On peut toucher à 160 ans d'histoire, de droit social fondamental, de vie quotidienne, intime des salariés, sans qu'il y ait, en pleine campagne électorale, sans qu'il y ait un bruit, un débat, une information qui filtre. Ils l'ont fait. La CGT est allée en Conseil d'État. Ils ont eu peur. Ils ont hâté le processus de consultation des parlementaires. Au Conseil des ministres du 18 avril 2007, 4 jours avant le premier tour, toujours dans le silence général, ils ont renvoyé ça au Parlement. Les hasards du calendrier parlementaire après l'élection ont fait que c'est arrivé au Sénat le 26 septembre 2007. 26 septembre, le jour d'ailleurs où on a trouvé la question noire de Gauthier-Soubaniac. Et les sénateurs ont reçu les 994 pages la veille. Et ils ont voté en 25 minutes. C'est arrivé à l'Assemblée nationale le 4 décembre 2007. On s'agitait toujours. J'ai eu un petit coup de peau. J'ai envoyé des tribunes aux différents journaux qui ne passaient pas. Et j'ai envoyé une à Libération. Ça s'appelle Rebond, pour ceux qui lisent ce journal. On a le droit de passer les... On a le droit. Enfin, de temps en temps, ils me concèdent qu'on peut passer un article. Et là, je tombe sur une remplaçante qui me dit, mais j'ai lu votre article, monsieur Filoche, là. Qu'est-ce qui se passe avec le Code du travail? Mon journal n'en a jamais parlé. Ben, je dis, c'est l'occasion. Elle me dit, ben, je vous le passe dans 15 jours. Ah ben non, ça sera trop tard, la loi sera passée. Bon, ben, je vous le passe tout de suite. Elle met le titre elle-même. Elle met « Massacre du Code du travail dans un silence général ». La première personne qui m'a appelé ce jour-là, vers 10h du matin, c'est un membre du Conseil constitutionnel, Pierre Joxe, le seul qui reste de gauche. Cherchez pas, il y en a 11 maintenant avec les deux anciens présidents, c'est pas le Code du travail qui les étouffe, ceux-là. Mais Pierre Joxe me dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors c'est comme ça, ils réécrivent le Code ensemble. Ben, je dis oui, je t'amène toute la doc, etc. J'ai visité le Conseil constitutionnel pour la première fois de ma vie, je vous assure, c'est beau. Il y a de la moquette. Il y a des écrans plats, des chauffeuses, au-dessus des colonnes de Buren. C'est une maison de retraite impeccable. Impeccable. Et j'ai discuté avec Pierre Jacques. Je dis, ben alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire si... Il me dit, écoute, il n'y a rien à attendre. Hein. Ils s'en foutent complètement du Code du travail. Ils ne diront rien. Il dit, maintenant, il faut faire le maximum de bruit avant. Alors, on a essayé de faire une conférence de presse. On a réussi. Le 3 décembre, à l'Assemblée nationale, avec... petite précision, sur 577 députés dans notre pays, il y a 10 anciens ouvriers et employés. Et sur les 10, il y en a 8 qui sont dans le public. Il y en a 2 qui étaient dans le privé. Donc le Code du travail parle. Hein. La première qui m'a aidé, c'est Martine Billard, députée verte du 1er arrondissement de Paris. Elle avait été déléguée du personnel dans une vie antérieure. Ça lui parlait. Le deuxième, c'est Roland Museau. Délégué CGT à la SNECMA, qui était député du PCF. Et le troisième, c'est Alain Vidalis, avocat du droit du travail, parti socialiste. Les trois savaient de quoi ils parlaient, ils ont accepté de faire la conférence de presse. Il y avait tous les syndicats de l'inspection du travail. Il faut savoir que pour 450 inspecteurs, on a 7 syndicats. Et il y avait le syndicat de la magistrature. Et la conférence de presse a eu un peu d'écho. On est passé de 0 article dans Google à 100, 120 articles. Après, on a eu des unes de l'Humanité. Le Monde, c'était pas très très fort. Le Monde diplomatique a fait 2 pages entières. Bon, c'est sorti. Et alors, il y a un de mes collègues, je le cite toujours, je lui rends hommage, je ne sais pas tous les soirs, mais il s'appelle Richard Abosit, c'est un inspecteur du travail en retraite, il est du côté de Montpellier, qui s'est collé pendant la fin de l'été, début de l'automne, la comparaison entre les deux textes. Au début, il ne nous avait pas donné la nomenclature. Après, il a fallu avoir la nomenclature, on a comparé, il a fait 150 pages de différence. Il jouait au jeu des différences. Et il a rédigé près de 150 amendements pour qu'on demande aux députés de réintroduire le droit ancien dans le droit nouveau. Hein, ce qu'on pouvait faire d'autre. On les a donnés au groupe Vert, au groupe PC, au groupe PS. Ils sont mieux battus qu'au Sénat. Ils ont tenu 8 heures, pas 25 minutes, 8 heures. Et puis au bout... C'est comme la chef de M. Seguin, le loup UMP les a dévorés. Alors l'UMP, c'est pas foulé hein, dans le débat à l'Assemblée. Ils avaient désigné une députée de Perpignan toute nouvelle qui connaissait rien au droit du travail et lui avait dit « Tu réponds, c'est à droit constant, tu vas faire la main, c'est un dossier facile ». Et la fille, toute la nuit, elle répond, c'est à droit constant, c'est à droit constant, c'est à droit constant. De temps en temps, il y a Xavier Bertrand qui revient, mais c'est à droit constant, mais c'est à droit constant. Et qui nie toute place pour des amendements qui réintroduisent le droit ancien, comme quoi que le droit nouveau serait déjà le même que le droit ancien. Et quand on lui montre la différence, mais non, c'est à droit constant. Comment peut-on faire ça dans un pays démocratique? Hein, je m'attarde sur la procédure, mais parce que je reste, bien que j'en parle beaucoup, toujours indigné. Hein, c'est comme dans un pays à la Poutine. C'est comme dans une république bananière. C'est comme ça après qu'on vous fait avaler des traités de Lisbonne que vous ne connaissez pas. On vous travaille dans le dos. Et si vous dites quelque chose, vous n'avez pas le droit. Ou on vous nie le droit. Parce que le pire, c'était de nier, de dire à ceux qui contestaient, de dire, mais non, il n'y a pas matière, c'est à droit constant. Hein, vous êtes fous de voir des différences, il n'y en a pas. Quand même, évidemment, tout s'est passé comme ils ont voulu. Le Conseil constitutionnel a ratifié le 17 janvier. Je peux vous dire même qu'il y a eu ce qu'on appelle une copie conforme au Sénat le 19 décembre. Ils étaient à peu près 12. Je suis allé jusqu'à à l'entrée du Sénat, m'engueuler avec Raffarin sur cette question. Et, il y avait 12 personnes, ils ont voté la copie conforme avec l'Assemblée nationale. Et puis ensuite, le Conseil constitutionnel a ratifié le 17 janvier 2008. Et ils ont fini d'écrire la partie réglementaire, décret et arrêté, pour l'ajouter, et tout est devenu effectif le 1er mai 2008, il y a maintenant 11 mois. Un nouveau code du travail s'est mis en place. Alors, on va me dire, bon, le fond. Alors, il y a 150 pages de fond de différence. Je vais prendre d'abord des morceaux de doctrine, quoi. Alors, le premier élément qui saute aux yeux dans le plan, c'est qu'ils ont fait sauter tout ce qui avait trait à la durée du travail de la partie condition de travail où elle était pour la mettre dans la partie salaire. Alors, il y a un avocat de droite qui m'a dit bah, vous faites du flan pour rien, Filoche, c'est un changement de plan, mais pas de fond. Il m'a même dit ils ont changé le bibelot de l'étagère, mais il y a toujours le bibelot. Sauf que l'approche doctrinale de la réduction du temps de travail en lien avec la santé, avec la condition de travail, est une approche fondamentale. Si vous ne la mettez plus qu'avec le salaire, vous pouvez faire sauter tout ce qui a été progressé en 160 ans. L'idée d'une durée maximale du travail, par exemple. Vous pouvez faire sauter l'idée de la durée maximale quotidienne, la durée maximale hebdomadaire. Vous pouvez faire sauter le fait qu'il doit y avoir un repos hebdomadaire obligatoire au bout de 6 jours. Ça n'est plus qu'une question d'argent, ça n'est plus lié avec la santé des gens. C'est l'argent et plus la santé des gens. C'est un changement de place dans un plan. Mais c'est pas pour rien si ça a été fait par le roi de « il faut travailler plus hein ». Ça s'inscrit très bien, enfin, pas toujours, parce que maintenant qu'il nous fait du chômage partiel, c'est travailler moins pour gagner moins, hein, c'est le même. Mais en tout cas, c'est avec l'argent qu'il lie la durée du travail et pas avec la biologie. Pas avec la vie, pas avec la santé, pas avec les besoins humains. Ah, c'est un changement assez fondamental quand même, mine de rien. Deuxième, ils ont viré les apprentis du contrat de travail. Ils ont mis dans la partie stagiaire de la formation professionnelle. Bon, bah, ça veut dire qu'ils ne comptent plus dans les effectifs des entreprises. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas aller aux prud'hommes. Ils ne votent pas pour les prud'hommes non plus. C'est un changement. Ils ne relèvent plus du code du travail proprement dit avec le contrat. Ils relèvent des stagiaires de la formation professionnelle. C'est une autre catégorie juridique. Ce n'est pas un droit constant, ça. Pardon. Troisièmement, ils ont éclaté des morceaux du code du travail pour d'autres codes. Alors là, c'est déjà du plus sérieux. Ils ont renvoyé les mineurs au code des mines, les dockers au code des affaires maritimes. Les assistants maternels à un futur code de la famille, les ouvriers agricoles au code de l'agriculture. Ils veulent faire un code des transports avec les salariés des transports, un code de l'énergie avec les salariés de l'énergie. Et de cette façon-là, et oui, les éducateurs et les enseignants du privé seraient renvoyés dans un futur code de l'éducation. C'est-à-dire que c'est un rêve de MEDEF, ça. C'est-à-dire, vous éclatez le droit et le salariat lui-même en des codes différents qui vont avancer ensuite à des pas différents. Ah, au départ, c'est pas, ça saute pas aux yeux, mais quand même. Moi, je prends l'exemple des ouvriers de l'agricole. Ils ont mis 40 ans pour rentrer dans le code du travail. Ils y sont rentrés après 68. Vous vous souvenez, mai 68, on a 33% d'augmentation de salaire pour le SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti. Et les ouvriers agricoles ont 55% d'augmentation de salaire pour le SMAG, salaire minimum agricole garanti, pour que tout ça devienne un SMIC, salaire minimum interprofessionnel de croissance, et que tout ça soit unifié. Mais si vous renvoyez les ouvriers agricoles dans un code de l'agriculture, demain, vous pourrez faire évoluer le SMIC comme un SMAG. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein? Alors, vous vous rendez compte, vous faites 33% d'augmentation, on a eu en 68. Pas mal. Ça porterait le SMIC aujourd'hui, j'ai calculé, à 1740 euros. On a pu le faire une fois. Il y en a qui disent, oh oui, mais ça a été vite repris. Non, c'est un mensonge. Les salaires étaient indexés sur les prix toutes les années 70 jusqu'en 1983. Les gens ont pu s'acheter des choses, ils ont mieux vécu. Ils ont acheté des lave-linges, des choses qu'ils ne pouvaient pas acheter avant. Bien sûr, dans les années 70, ça a été une répartition des richesses différentes à cause de cette augmentation. Ah oui, mais il ne faut pas augmenter les salaires, ça fait de l'inflation. Ah bon ? Il y a 2 ans, 3 ans, là, il y avait de l'inflation, alors qu'on n'avait pas augmenté les salaires depuis 30 ans. L'inflation, ce n'est pas dû à l'augmentation des salaires, c'est dû à la spéculation. Bon, je dis ça pour fermer une parenthèse sur l'augmentation de 68 et revenir aux ouvriers agricoles, 55% d'augmentation de salaire. Et bien maintenant, peut-être qu'ils évolueront à un pas différent si ce système de codes éclatés se met en place et se généralise comme ils en ont l'intention. Parce qu'il n'y a rien de tel que d'éclater le salariat qui est pourtant plus homogène qu'il ne le sait. Je fais une deuxième parenthèse, si vous me permettez. En 1945, il y avait à peu près plus d'un actif sur deux qui était salarié. Les autres étaient agriculteurs, paysans, commerçants, professions indépendantes, artisans. Presque un sur deux, moitié-moitié. Enfin. Et les autres ne voulaient pas s'affilier aux caisses de sécurité sociale parce qu'ils pensaient qu'elles n'étaient pas assez solides pour payer leur retraite et leur protection sociale. C'était il y a 60 ans. Mais en 60 ans, ça c'est pas Jean-Marc Sylvestre qui vous le dira le matin sur France Inter à 7h20. D'ailleurs, il est remplacé par Dominique Seux. Il paraît d'ailleurs que Jean-Marc Sylvestre a fait tout un procès parce qu'il était qu'en CDD. Il veut requalifier son contrat en CDI. C'est bien le seul point où je le soutiendrai. Et ils ne vous disent pas comment le salariat a évolué en 60 ans. Parce qu'en fait, il est plus homogène. Il a 91%, entre 91 et 93, 91 à 93% de la population active aujourd'hui est salariée. Les individuels, travailleurs indépendants, ne sont plus que 7% des actifs. Le salariat a gagné numériquement, historiquement, en 60 ans, c'est lui qui produit les richesses de ce pays. Quand vous entendez des gens qui vous disent oh, « les gens sont de plus en plus individualistes », non, pas possible. Socialement, ils sont beaucoup plus dans un statut que ce qu'ils étaient il y a 60 ans, il y a 50 ans, il y a 40 ans, il y a 30 ans. Le salariat est une force sociale considérable. Mais il importe, du point de vue de la droite et du MEDEF, qu'on ne le sache pas. Parce que si les salariés savaient qu'ils sont forts, ils en feraient plus. Or, ils en font déjà beaucoup. 68, 86, 95, 2003, 2006, 2009. Et le salariat, c'est, on va dire, 2-3 choses de plus. Les CDI, contrats à durée indéterminée, c'est encore 85% du salariat. Bien sûr que la précarité, hélas, a gagné. Il y a 15% de précaires, de contrats atypiques. C'est le double d'il y a 20 ans. Mais il reste 85% de CDI. Souvent tombé dans le panneau, moi, en mettant un micro, ou dénoncer la précarité. Ouais, je dénonce la précarité. Puis à la fin, on parle plus que de ça. Et on croit que c'est foutu. Mais en fait, la précarité, c'est comme des termites. Ça ronge les pieds du meuble du CDI, mais il y a un meuble à défendre. On me dit parfois, mais les jeunes, 80% d'entre eux sont embauchés en CDD, en machin. Embauchés, en flux, mais pas en stock. En stock, entre 29 ans et 54 ans, c'est 95% des contrats qui sont en CDI. Et ils essaient de détruire le CDI depuis 20 ans, mais ils n'y arrivent pas. Même le contraire, je vais vous expliquer. Parce que le CDI s'allonge. Alors, le mensonge du matin sur France Inter qui dit « Vous allez faire trois métiers dans votre vie, vous ne pouvez plus rester dans le même boulot, il faut vous apprêter à changer, soyez souple, soyez mobile. » En 20 ans, la durée moyenne d'un CDI était de 9 ans et 6 mois en 1982. Elle est aujourd'hui de 11 ans et 6 mois. 2 ans de plus, 20% de plus. Les gens restent plus longtemps dans l'entreprise aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Alors ça, on ne vous le dit pas, salariés, si vous saviez. Pourquoi on ne vous le dit pas? Parce que si vous pensez que vous êtes nombreux en CDI à rester plus longtemps, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez demander une augmentation. Et vous allez peut-être même vous syndiquer pour l'avoir. Il vaut mieux vous faire croire que vous êtes précaire, que c'est foutu, que la logique va dans l'autre sens, que la précarité a gagné, et c'est de la propagande pour écraser, casser le salariat.